Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le journal de ce lundi, 13 novembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Emmanuel Macron revient sur ses propos anti-israéliens. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, à Gaza, le système de santé se détériore rapidement et de plus en plus d'hôpitaux deviennent dysfonctionnels. L'Iran a une fois de plus condamné les atrocités commises par Israël contre les hôpitaux de la bande de Gaza, affirmant que le monde doit réagir face au régime débridé d'Israël. Et puis les gens du monde entier continuent de descendre dans la rue pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens et exiger la fin du massacre d'Israël dans la bande de Gaza. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. À Gaza, le système de santé se détériore rapidement et de plus en plus d'hôpitaux deviennent dysfonctionnels. L'armée israélienne a encerclé l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza et l'a bombardé à plusieurs reprises ces derniers jours. Selon certaines informations, des tireurs d'élite israéliens continuent de tirer sur toute personne se trouvant à proximité du centre médical. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a qualifié la situation de l'hôpital de désastreuse et périlleuse. Le dernier générateur de l'hôpital est également tombé en panne de carburant, ce qui a entraîné la mort de 5 bébés prématurés et de 7 patients dans un état critique. Le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, nie avoir refusé l'offre israélienne de carburant à l'hôpital Al-Shifa. Le directeur de l'établissement médical a également qualifié les allégations israéliennes de coups de propagande. Les responsables palestiniens affirment que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'Israël s'était effondré le 7 octobre suite à l'opération Tempête d'Al-Aqsa et était en vie grâce au soutien vital des États-Unis. Le monde est témoin d'une guerre américaine à grande échelle contre Gaza, a déclaré Amir Abdollahian dans un message sur son compte X dimanche soir. Le régime israélien s'est effondré le 7 octobre et il vit désormais grâce à la respiration artificielle américaine, a-t-il écrit, faisant référence à une récente conversation téléphonique avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sami Choukri. Le plus haut diplomate iranien a ajouté qu'il avait déclaré à son homologue égyptien qu'aujourd'hui est notre journée de test. Le Caire devrait ouvrir le poste frontalier de Rafah entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte dans le but de fournir une aide humanitaire, notamment de l'eau et des médicaments, aux personnes touchées par la guerre, a-t-il déclaré. Le bilan des victimes des frappes israéliennes contre la bande de Gaza s'élève à 11 180, dont 4 609 enfants et 3 100 femmes. Jusqu'à présent, plus de 28 000 autres personnes ont été blessées. Le régime de Tel Aviv a également bloqué l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'électricité à Gaza, plongeant le territoire dans une crise humanitaire. Au moins 22 hôpitaux et 49 centres de santé dans la bande de Gaza ont arrêté leurs activités en raison des bombardements ou d'une pénurie de carburant. L'Iran a une fois de plus condamné les atrocités commises par Israël contre les hôpitaux de la bande de Gaza, affirmant que le monde doit réagir face au régime débridé d'Israël. Lors d'un point de presse hebdomadaire lundi à Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que les protecteurs occidentaux d'Israël sont responsables de la catastrophe odieuse dans la bande de Gaza. Le porte-parole a déclaré que des pays tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France devraient cesser de soutenir inconditionnellement le régime israélien et cesser d'empêcher le Conseil de sécurité de l'ONU de remplir son devoir d'établir la paix et la sécurité. Khanani a appelé à la fin de l'agression israélienne, à la levée du siège des hôpitaux, à l'envoi d'une aide humanitaire et à la lutte contre les mesures coercitives visant à déplacer les Palestiniens. Le diplomate a souligné que Téhéran continuera à soutenir les Palestiniens sur tous les fronts. Alors que les Palestiniens ont cruellement besoin de matériel médical, le régime sioniste a empêché l'aide humanitaire iranienne d'atteindre Gaza via l'Égypte. Le régime sioniste n'a pas autorisé l'aide humanitaire iranienne à entrer dans la bande de Gaza en raison de l'opposition du régime sioniste à l'entrée de l'aide humanitaire iranienne à Gaza par le terminal de Rafah. L'Égypte s'est excusée d'avoir accepté cette aide. L'opposition du régime sioniste à l'arrivée de l'aide humanitaire en provenance d'Iran s'est produite alors que les autorités de ce régime autorisaient l'entrée limitée de cette aide dans la bande de Gaza. Un certain nombre d'hôpitaux et de centres médicaux de la bande de Gaza ont annoncé ces derniers jours qu'ils étaient à court de réserves de carburant et qu'ils avaient un besoin urgent de fournitures médicales. La semaine dernière, lors d'une conversation téléphonique avec le PDG du Croissant Rouge égyptien, Rami Al-Nazer, chef du Croissant Rouge iranien, Pir Hossein Kolivand, a salué la position de l'Égypte dans sa condamnation des attaques du régime sioniste. Enfin, les gens du monde entier continuent de descendre dans la rue pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens et exiger la fin du massacre d'Israël dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes ont assisté à un rassemblement à Sydney, la plus grande ville d'Australie. Ils ont dénoncé les actions d'Israël à Gaza, brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans tels que « La Palestine ne mourira jamais ». Les Espagnols ont rempli une station de métro à Barcelone, exigeant qu'Israël mette fin à son action militaire sur le territoire palestinien. À Dublin, la capitale irlandaise, les manifestants ont exhorté leur gouvernement à expulser l'ambassadeur israélien. Les Sud-Africains ont organisé un nouveau rassemblement au Cap. Ils ont également exigé l'expulsion de l'envoyé d'Israël et la fermeture de son ambassade. Des rassemblements similaires ont également eu lieu dans les capitales de France, d'Allemagne, de Belgique et de Grande-Bretagne, où la population a condamné les attaques brutales d'Israël contre Gaza. À Londres, plus de 300 000 personnes ont défilé vers l'ambassade américaine, appelant à la fin de la guerre contre Gaza. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Emmanuel Macron revient sur ses propos anti-israéliens. Le président français Emmanuel Macron, lors d'un entretien téléphonique ce dimanche 12 novembre avec le président du régime israélien Itzhak Herzog, est revenu sur ses déclarations lors de sa récente interview accordée à la BBC. Dans un entretien accordé à la BBC et diffusé vendredi soir, Macron avait exhorté Israël à cesser les bombardements tuant des civils à Gaza. De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés, ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées, avait-il déclaré. Et d'indiquer qu'il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela, nous exhortons donc Israël à arrêter. Toutefois, selon le bureau de Herzog, Emmanuel Macron a indiqué qu'il n'accusait pas et n'avait pas l'intention d'accuser Israël de nuire intentionnellement à des civils innocents de Gaza dans le cadre de sa guerre contre la résistance palestinienne. Le président français a exhorté samedi 11 novembre le régime sioniste à mettre fin à ses attaques sans cesse contre les civils à Gaza, ce qui s'est accompagné de critiques sévères de la part des sionistes. Toutefois, Israël a rejeté l'appel du président français Emmanuel Macron à cesser de tuer des femmes et des enfants dans la bande de Gaza, estimant que la responsabilité des victimes civiles incombe au mouvement Hamas. En réaction à la demande du président français de mettre fin au massacre de civils palestiniens dans la bande de Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prétendu que le Hamas était responsable de la mort de personnes à Gaza et que Tel Aviv ne devrait pas être condamné. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi que nous ne voulons pas que la communauté internationale nous critique, mais que nous voulons qu'elle nous soutienne dans la guerre contre le terrorisme. Lors d'un entretien accordé à la chaîne américaine CNN, Netanyahou a également réitéré sa position concernant les appels internationaux à un cessez-le-feu, affirmant que la seule cessation des combats qu'il accepterait serait celle dans laquelle nos otages d'Ixit seraient libérés. Le premier ministre du régime sioniste a ajouté « Nous parlons uniquement d'un cessez-le-feu temporaire et non d'un cessez-le-feu permanent et de la fin de la guerre. » Il a prétendu que l'armée israélienne devait être présente à Gaza et que tout gouvernement civil à Gaza devait accepter le désarmement de cette zone. « Nous voulons une gouvernance qui serait accompagnée d'une atrocité civile reconstruite, une sorte d'autorité palestinienne civile contrôlant Gaza qui est disposée à éduquer les enfants pour un avenir de paix, de coopération, de prospérité et de coopération avec Israël », a-t-il dit. « Je dis à tous ceux qui m'ont accusé de ne pas assumer mes responsabilités que je leur répondrai après la guerre », a précisé Netanyahou. Dans ce contexte, le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a reconnu qu'aucune zone ni aucun point de Gaza n'était à l'abri des attaques et des bombardements. Alors que le régime israélien a demandé à plusieurs reprises aux habitants de Gaza de se rendre au sud de l'enclave palestinienne, sous blocus, pour éviter les bombardements, le porte-parole de l'armée de ce régime a déclaré ce dimanche 12 novembre, Dixit, « La bataille à Gaza continue. Je demande aux Palestiniens, comme avant, d'aller vers le sud, mais nous n'avons jamais dit que nous ne ciblerions pas le sud de Gaza. Il y a des cibles militaires importantes que nous ciblerons certainement », a-t-il renchéri. Il n'y a aucune exception ni aucune zone épargnée par nos attaques, a-t-il reconnu. Le bombardement insensé de Gaza a lieu alors que les Israéliens ne cessent de demander aux habitants de cette région de se diriger vers le sud, mais il existe de nombreux cas de ciblage des caravanes de réfugiés qui se dirigeaient vers Rafah. Samedi, les avions de combat du régime d'occupation ont pris pour cible une caravane de réfugiés sur la route de Salah ed-Din au centre de Gaza qui se dirigeait vers Rafah.
Bonjour à tous. Nouveau jour, nouveau débat, toujours sur la Palestine, toujours en pensée pour les Gazaouis, également les Palestiniens en Cisjordanie qui meurent depuis le 7 octobre, même bien avant. Mais là, cette fois, c'est fait devant les caméras, c'est fait devant les yeux, les regards du monde entier. Et pourtant, il semble que la situation humanitaire ne soit pas aussi importante pour l'humanité. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord donc un reportage avec un récapitulatif de la situation, également du nombre de blessés, du nombre de morts, qui ça touche à Gaza. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
Le bain de sang israélien dans la bande de Gaza se poursuit alors que la guerre génocidaire initiée par le régime criminel israélien et compagnie, sous le beau prétexte d'une lutte contre le Hamas, entre dans son 34e jour. les avions de combat israéliens ont une nouvelle fois frappé la zone autour du plus grand hôpital de Gaza. La presse occidentale, qui suit aveuglément les lignes éditoriales du sionisme satanique, a tout fait pour désensibiliser ses téléspectateurs aux images choquantes venues de Gaza, celles d'enfants palestiniens orphelins courant perplexes sur les décombres des immeubles rasés pour se protéger des explosions israéliennes. Ceux qui ont dit long sur le véritable caractère des hommes politiques occidentaux soumis aux dictats des lobbies sionistes. À ces images cataclysmiques de la fin des temps s'ajoute aujourd'hui celle des Gazaouis courant dans tous les sens pour se mettre à l'abri après l'explosion des missiles près de l'hôpital Al-Shifa, missiles qui ont également rasé les bâtiments voisins. Et disons que ce n'est pas la première fois que l'hôpital est pris pour cible par l'armée la plus morale du monde. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et l'Organisation mondiale de la santé ont qualifié la situation de désastreuse car l'hôpital est rempli de blessés et de centaines de Palestiniens déplacés. Les frappes et bombardements israéliens ont ciblé sans discernement les installations médicales, les écoles et les camps de réfugiés. Au moins 25 personnes sont tuées lors de nouvelles attaques contre le camp de Jabalia et à Khan Younes. Plus de 10 500 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués depuis qu'Israël a lancé sa guerre contre Gaza.
Alors nous revoilà sur les plateaux. Donc, tout d'abord, nous allons donc inviter nos deux invités à nous rejoindre. Nous commençons par Madame Aïssar Midani, spécialiste des questions franco-syriennes. Bonjour Madame Midani, heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et bonjour à toute votre équipe et je vous remercie de votre invitation.
Et nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir votre expertise que vous nous donnez depuis plusieurs années maintenant. Notre deuxième invité est M. Luc Michel, à nos autres experts. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Je vous remercie, bonjour à vous, à votre équipe. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Alors, Monsieur Luc Michel, grand bonjour de ma part aussi.
Bonjour Madame Bidadi.
Alors, Monsieur Luc Michel, on va commencer par vous. Alors, sur une notion, la notion de colonisation, parce que depuis donc, cette attaque du 7 octobre s'est faite, depuis ces bombardements incessants tous les jours sur Gaza, sur des civils, beaucoup sur les réseaux sociaux ont commencé à parler de l'histoire de la Palestine, de l'histoire de 1948, c'est-à-dire non, ça n'a pas débuté le problème palestinien en le 7 octobre de cette année, mais plutôt en 1948. Et beaucoup de réseaux rappellent qu'en fait, les Palestiniens n'ont jamais été invités à parler de leur situation à eux, puisqu'en 1948, c'est une décision qui s'est prise d'une manière équivoque contre les Palestiniens, mais sans un même que les Palestiniens ou leurs représentants puissent s'exprimer. C'est la notion même de colonisation. Et cette notion, Monsieur Michel, elle vient d'où, cette notion de colonisation? Est-ce qu'elle est universelle? D'où vient-elle pour imposer comme ça à un peuple existant depuis des milliers d'années le fait de devoir subir finalement l'apartheid d'aujourd'hui?
Écoutez, il y a un grand débat actuellement en Belgique, en France, en Angleterre et en Allemagne sur la décolonisation. La colonisation, c'est l'Occident qui s'est emparé du monde et qui a considéré que la terre était une terre sans peuple. La Palestine, évidemment, est souvent oubliée. C'est le même phénomène là-bas. Israël, c'est un morceau d'Occident en terre arabe.
Merci, Michel. Madame Midani, vous-même, comme on le rappelle souvent ici, dans les locaux de Presse TV, vous êtes en Syrie. La Syrie également subit une occupation, une colonisation illégale. Alors, illégale sous quelle notion? Sous la notion du droit international. quand on voit ce qui se passe actuellement à Gaza, donc je parle d'un point de vue humanitaire, je parle d'un point de vue humain, je parle d'un point de vue également du droit international, et quand on voit tout ce qui s'est passé ces 75 dernières années dans le monde, je ne parle pas forcément seulement de la question palestinienne, mais beaucoup de droits, beaucoup de personnes se sont exprimées sur le droit de l'homme, sur la manière de sauver les civils, les guerres propres. Il y a eu plein de théories dans les facs de droit sur comment réaliser une guerre propre. On se rappelle de ce qui s'est passé au Vietnam, dans les pays d'Asie, où il y a eu énormément d'utilisation d'armes qui sont devenues par la suite illégales. Mais finalement, on n'a rien retenu quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit les 10 000 morts, et ça ne s'arrête pas, sans aides humanitaires, sans droit à être soigné, sans rien du tout. Finalement, l'histoire a-t-elle retenu quelque chose ?
Écoutez, l'histoire, elle est remplie des crimes des colons, des régimes colonialistes contre les peuples, hein. Je voudrais rappeler quand même, depuis pour le siècle dernier, c'était toutes les guerres les guerres de Corée, la guerre contre le Vietnam, les agressions en fait contre le Vietnam, les bombes nucléaires américaines contre le peuple japonais, contre Nagasaki et Hiroshima. La colonisation et puis les accords Sykes-Picot qui ont divisé tous les pays arabes en partage entre les colons américains, anglais, britanniques et français. Et puis après, ça a été les Américains qui ont repris la suite des Anglais. Le partage, le pillage des ressources, la destruction de l'Afghanistan, la destruction de l'Irak, c'est des invasions très très sanguinaires en fait, hein. L'Irak et puis la Syrie et puis la Libye et puis la Palestine, ça a été depuis le Sykes-Picot jusqu'à maintenant une colonisation avec déplacement de population, une colonisation à bout de massacres, hein. Et à systématiquement des massacres effectués contre la population pour les pousser à l'exode, des massacres pour arracher les gens à leurs terres. Et ça continue donc depuis 75 ans, même à la limite depuis bien avant, puisque c'était en 2016 et 2017, la déclaration Balfour, ça a été depuis ce moment-là. Ça a été malheureusement consacré par l'ONU dès sa création, par la reconnaissance de l'État fantoche israélien qui était créé de toutes parts. Et comme a dit M. Luc Michel, c'est une partie de l'Occident dans la région, dans le Moyen-Orient. Pourquoi ? Pour garder un pied dans la région au cas où tous ces pays se décolonisent et luttent pour leur indépendance. Et en fait, effectivement, la particularité aussi de cette colonisation israélienne, c'est qu'elle se fait aussi non seulement à coup d'apartheid et à coup d'agression et de répression et puis de massacre, mais surtout pour pousser les Palestiniens en dehors de chez eux et les Israéliens veulent se l'approprier. Je rappelle que ces Israéliens sont venus de partout dans le monde, essentiellement de l'Europe, et en fait pour coloniser un pays, un peuple, et s'approprier les richesses et les terres en poussant la population à l'extérieur.
Excusez-moi,
c'est vraiment historique.
Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que ça explique pourquoi les pays arabes aux alentours ont fermé leurs frontières, sachant aussi que les Gazaouis eux-mêmes se sont exprimés sur le sujet en disant « nous ne partons pas, nous resterons à Gaza ». Mais est-ce que ça explique le fait que donc, ces fameux pays arabes voisins et donc ayant une frontière avec les territoires palestiniens et les territoires palestiniens occupés ont fermé leurs frontières pour éviter cet exode de nouveau, puisque ce ne serait pas la première exode ?
Absolument, parce que de toute façon, cette histoire d'exode, même des soi-disant sorties, passages humanitaires, etc., elle est à double aspect, elle est à double tranchant. En fait, il y a l'aspect effectivement sortir pour se pour s'extraire aux bombes et aux bombardements et à l'extermination, d'une part. Mais d'autre part, ça veut dire aussi partir et laisser les terres à ceux qui veulent se les approprier et qui sont les Israéliens, et ils sont là pour pousser la population dehors. Or, ce qui s'est passé en 1948, effectivement, c'est que des différents massacres ont poussé la population à l'extérieur. De là, on voit qu'il y a des camps de... Il y a maintenant, les Palestiniens sont dans le monde entier, mais il y a aussi des camps de réfugiés dans les pays environnants, dans les pays autour de la Palestine, donc en Syrie, au Liban, en Égypte, en Jordanie essentiellement. Et ces gens qui étaient partis, ils pensaient pouvoir partir provisoirement pour se soustraire aux bombardements et aux exactions de l'envahisseur. Mais voilà 75 ans et qu'ils n'ont jamais pu revenir chez eux, et que les plans occidentaux et les plans sionistes ont continué à grignoter leurs terres malgré les décisions de l'ONU à répétition, malgré leur droit le plus légitime à revenir à leurs terres, et malgré le droit qui était aussi approuvé par l'ONU, le droit de retour, hein, et toutes les règles internationales et toutes les solutions internationales. Bon, ça n'y fait rien du tout, puisque Israël s'assoit sur tout ça, sur tous les droits. On voit d'ailleurs très bien maintenant comment il mène une guerre de génocidaire en faisant fi de toutes les lois internationales, même des guerres. Donc voilà, ça a été. Et aujourd'hui, donc, effectivement, la résistance palestinienne a appelé les civils à rester chez eux. Et on voit après les bombardements massifs israéliens contre des grands buildings de civils, des grands immeubles qui contiennent des familles entières et des milliers de familles, je dirais, des centaines de familles, parce que je rappelle quand même que Gaza est le coin le plus peuplé du monde.
2 millions de personnes.
Cette petite partie, voilà, 2,5 millions pratiquement de personnes dans cette toute petite partie du monde qui sont entassées donc, dans des tours, etc. Et donc, toutes les bombes qui ont été balancées par les Israéliens, elles ont été très meurtrières. Et malgré tout, quand même, la résistance palestinienne et les gens, quand ils sortent de tous les décombres, ils disent « De toute façon, nous resterons ici, nous préférons mourir sur nos terres plutôt que de partir et la laisser aux Israéliens. »
Merci,
donc,
Madame
Idani. Donc ça, c'est très important à voir.
Merci, Madame Idani.
Dans cette guerre génocidaire. Ouais.
Alors, Monsieur Luc Michel, on voit le monde avoir patienté le 7 octobre, jusqu'il y a 15 jours encore, patienté de voir ce que va faire le monde occidental, puisque cette colonisation a été imposée, créée, fondée par le monde occidental. Et on a vu le monde, finalement, au bout de 14 jours, 15 jours, réagir, c'est-à-dire des pays qui, en général, ne prenaient pas parti sur la question palestinienne, comme la Chine ou même la Russie, réagir. On a appris il y a quelques heures que l'Indonésie proposait même un bateau hôpital afin d'aller vers Gaza, afin d'aider, puisque l'hôpital indonésien a été détruit ou en partie, en tout cas a été touché par des bombardements, où on voit donc des pays qui, même s'ils étaient pour la cause palestinienne, en tout cas c'est ce qu'ils indiquaient, n'avaient jamais réellement réagi d'une manière aussi officielle au vu de l'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Luc Michel, vous qui suivez beaucoup le monde multipolaire, est-ce que cette question palestinienne, ce droit humanitaire qu'on leur refuse, va également encore plus pousser les gens à aller vers ce monde multipolaire, voyant que le monde occidental a échoué de nouveau sur un autre sujet, qui est, je le rappelle, un sujet important, celle de l'humanité?
Écoutez, ce que les Israéliens n'ont pas compris, c'est que le monde avait changé depuis un an. Et aujourd'hui, évidemment, je pense, moi, que les Israéliens, ils ont, comme disent les Américains, été un peu trop loin. On n'accepte plus aujourd'hui le dernier phénomène de la colonisation qui est Israël. Rappelons qu'il y a une thèse marocaine, de l'université marocaine, qui explique que le colonialisme est héritier direct de l'esclavagisme. C'est le crime de l'Occident.
Merci, Monsieur Luc. Est-ce que, Madame Hidalgo, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point de vue-là? Ça va forcer encore plus le monde multipolaire, cette histoire de, on l'a entendu, Monsieur Nasrallah, la résistance libanaise, on a entendu l'Iran s'exprimer en disant que ça va aboutir vers une fragilisation très importante du sionisme. Et au vu de ce qui se passe, les réactions mondiales, est-ce que vous êtes d'accord que même si Gaza est en train d'être confronté aux bombes, finalement, ça va permettre d'avoir un autre pouvoir pour pouvoir enfin faire bouger les choses, parce qu'on vous rappelle, ça fait 75 ans.
Écoutez, je crois que cette guerre, cette agression contre Gaza a montré le vrai visage, non seulement d'Israël, mais aussi de l'Occident. Le visage du sionisme, on sait qu'il est relativement sauvage et que dans ses exactions contre les Palestiniens, et contre les détenus, contre les enfants, contre la population qu'il pousse à l'exode à coups de répression, il est plus ou moins connu, alors que malgré le fait que les médias occidentaux le présentent toujours comme le pouvoir le plus démocratique dans la région, etc., mais aussi gardé par l'armée la plus forte de la région et peut-être du monde. Bon, aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont volé au secours de ce pouvoir ignoble qui s'est vraiment complètement dévoilé dans dans son horreur et dans toute la splendeur de son horreur, en bombardant les hôpitaux, en bombardant les civils sans arrêter, d'ailleurs, en bombardant les lieux de culte, les écoles, les écoles de l'ONU, les écoles, même des associations humanitaires. Ça a montré un visage absolument horrible et trucidaire, je pourrais dire, hein, qui veut absolument tuer sauvagement. Et génocide.
Enfin, dans les médias interrogés, dans les médias occidentaux, quand on a interrogé les pro-sionistes ou même les représentants directs de cette entité colonialiste, ils ont clairement dit qu'ils s'en foutaient de la population gazaoui.
Absolument, mais les Israéliens sont allés jusqu'à dire quand même les Palestiniens sont des animaux. Les Palestiniens ne méritent pas de vivre. Les Palestiniens doivent être décimés avec l'arme nucléaire. C'est quand même le ministre du culte du patrimoine israélien a proposé au Knesset aussi de balancer une bombe nucléaire sur Gaza. Comme ça, on sera tranquille, disait-il, et ceux qui se sont opposés à lui, c'était non, il ne faut pas le dire, parce que ça gâche l'image d'Israël comme pays démocratique. Alors franchement, c'est sûr, et je voulais dire, en fait, tous ceux qui sont partis rapidement, les chefs d'État, les Biden, les Blinken, les Britanniques et les Français, les chefs d'État qui sont allés porter secours à cet État qui s'enfonce dans son horreur, et pas seulement lui porter secours, mais aussi l'épauler, le soutenir et continuer à lui envoyer des armes et un soutien indéfectible. Donc ça montre que tous ces États occidentaux aussi sont exactement de la même nature, et jusqu'à maintenant ils se cachaient derrière des langages
diplomatiques, on va dire diplomatiques,
de défenseurs de droits de l'homme et humanitaires, alors qu'en fait ce sont les pires assassins des peuples, hein, et ils se montrent tels que. De toute manière, on a vu aussi que les porte-avions et les grands bateaux de guerre américains, ils ont accouru aussi au large de Gaza, que les aides en aviation, en munitions, missiles, etc., ont aussi étaient très vite fournis. Il y a même des Américains, des pilotes américains qui bombardent Gaza. On a vu aussi les milliards qui ont été aussi tout de suite octroyés à ce pouvoir criminel, alors que tous ces pays sont dans des difficultés financières, ils ont des dettes pas possibles, ils augmentent leurs dettes en volant au secours de ce pouvoir criminel.
Merci, Mme
Donc,
Daniel.
Ça montre vraiment leur nature et, à mon avis, il n'y a pas deux questions à se poser et ils sont exactement de la même nature. Et j'espère que nos amis du Sud global vont pouvoir aussi réagir en soutenant le peuple palestinien dans cette lutte.
Merci, Madame Midani. Monsieur Luc Michel, vous qui suivez les situations, notamment en Ukraine, avec la Russie, avec les évolutions sur le terrain, vous suivez également énormément ce qui se passe en Afrique. Est-ce qu'on peut espérer, finalement, qu'un débouché positif arrive à la Palestine, et on parle de tout le territoire palestinien, on ne parle pas seulement donc du territoire gazaoui. Est-ce qu'on peut l'espérer sur du même long terme, parce que on ne pense pas que ce qui se passe à Gaza sera la dernière offensive ou la dernière défensive de l'histoire palestinienne?
Écoutez, la cause palestinienne était passée de mode. Elle est aujourd'hui revenue numéro 1 dans l'agenda mondial. Le président Poutine disait que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Aujourd'hui, l'imposture occidentale, elle éclate au grand jour. Et c'est à un moment donné où le monde se désoccidentalise.
Merci, Monsieur Luc Michel. Madame Midani, on va finir sur le dernier sujet. On a encore quelques minutes. Ce sera notre mot de conclusion concernant le fait que je viens de demander à Monsieur Luc Michel les réactions mondiales et la possibilité que cette fois une vraie pression, un vrai levier de pression se fera pour résoudre la question palestinienne. On a vu également le monde réagir. Je parle des peuples, je ne parle pas forcément des gouvernements. Je parle des peuples qui ont réagi et qui ont sanctionné à leur niveau les territoires, le faux territoire sioniste, le territoire qui a été pris et volé aux Palestiniens. Je parle bien entendu du boycott international et qui ne se fait pas seulement que dans les pays musulmans, c'est même dans des pays non musulmans où on voit les plus grosses conséquences, des marques de cosmétiques, des marques de nourriture, des marques de tout. Tout est touché.
Alors je voudrais juste apporter une précision. Il ne s'agit pas seulement de Gaza, parce que l'agression israélienne, elle couvre toute la Palestine, les pays de la Cisjordanie, les villes et les quartiers de la Cisjordanie, de Jérusalem, etc., sont systématiquement envahis le soir et des personnes sont arrêtées de manière arbitraire.
Nous avons une minute, Madame Midani.
Horrible.
Nous avons une minute. Concluez.
Oui,
nous avons une minute.
Donc, voilà, je voudrais effectivement donc dire ceci. Et puis par rapport à ce que... quelle était votre question?
Concernant le boycott des peuples.
Le boycott, alors le mouvement BDS, le boycott des investissements sanctions, est un mouvement qui a été lancé effectivement depuis quelques années, qui porte ses fruits et nous invitons tous les pays à y participer, tous les peuples à y participer. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut effectivement aussi boycotter systématiquement toutes les entreprises israéliennes et ceux qui les soutiennent parmi
Merci.
Les entreprises américaines et européennes.
Merci Madame Midani, encore une fois toujours trop court ces débats. Merci à Monsieur Luc Michel, nos deux experts du jour, je le rappelle, Madame Aïssar Midani et Monsieur Luc Michel, expert des questions internationales. Je vous dis au revoir, à une prochaine fois pour un autre sujet du débat. Au revoir et à bientôt.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Le derviche de la montagne. Un derviche vivait dans la montagne avec sa solitude pour toute compagne. L'endroit où il s'était retiré était rempli d'arbres fruitiers. Mais le derviche s'était promis. « Ô Seigneur, je ne toucherai pas aux fruits de ces arbres avant que le vent n'en fasse tomber. » Mais comme il avait oublié de dire « Inch'Allah », ce fut dur pour lui de respecter sa promesse. 5 jours passèrent. Le feu de la faim brûlait son ventre, mais le vent ne faisait tomber aucun fruit. Les branches se courbaient sous leur poids, mais le derviche prenait patience, soucieux de tenir parole. À un moment, le vent poussa vers lui une branche chargée des fruits les plus mûrs. C'est ainsi que le destin lui fit renier son serment. Ce fut l'instant où Dieu lui tira l'oreille. Il y avait, non loin de là, un groupe de voleurs qui étaient en train de partager leur butin. Mais des soldats, prévenus par des espions, leur avaient tendu une embuscade et tous furent capturés, et notre derviche avec. On coupa la main droite et le pied gauche de chacun d'entre eux. En vain, le tour du derviche, on commença pour lui couper la main. Mais au moment où on allait lui couper le pied, un cavalier s'écria : « Que faites-vous là ? Celui-ci est un cheikh, un intime de Dieu. Qui lui a coupé la main ?» Le bourreau, plein de tristesse, se mit à lacérer ses vêtements tandis que le paye venait présenter ses excuses. « Dieu m'est témoin que j'ignorais cela. Pardonne-moi. » Le derviche répondit : « Je connais la vraie raison de ceci. Cette main est celle avec laquelle j'ai rompu mon serment. Que mon corps et mon âme soient sacrifiés à la volonté de Dieu. Toi, tu n'y es pour rien. C'est ainsi que, poussé par le désir de son estomac, le derviche perdit sa main. Combien d'oiseaux ont-ils laissé leur vie dans un piège à cause de quelques graines ? Ce derviche fut surnommé le derviche à la main tranchée. Bien des années plus tard, un homme vint lui rendre une visite impromptue et s'aperçut avec stupeur qu'il était en train de tresser un panier d'osier avec ses deux mains. Le derviche dit à son visiteur : « Pourquoi es-tu venu sans me prévenir ? Pourquoi a-t-il fallu que tu commettes semblable bévue ?» Son visiteur répondit : « Mon amour pour toi m'a fait oublier le respect qui t'était dû. » Le derviche lui dit en souriant : garde le secret de ce que tu as vu jusqu'à ma mort. » Mais d'autres personnes le virent par une fenêtre en train de tresser ses paniers, et son secret fut ainsi découvert. Voyant cela, le derviche s'écria : ô mon Dieu, tu es la sagesse. J'essaye de cacher les bienfaits dont tu m'as comblé. Mais toi, tu les dévoiles au grand jour. » Par la voix de l'inspiration, Dieu lui répondit : il y avait des hommes qui te prenaient pour un menteur et croyaient que c'était pour cette raison que tu avais été puni. Mais moi, je n'ai pas voulu que de tels blasphèmes se répètent. Et c'est pourquoi les faveurs dont je t'ai comblé sont devenues manifestes. Le miel du vin. Quelqu'un accusait un cheikh en disant « Ce n'est qu'un hypocrite. Il boit du vin en cachette. Comment croire qu'un tel homme puisse aider ses disciples ?» Un fidèle lui dit « Prends garde à tes paroles. Dieu ne permet pas d'avoir de telles pensées au sujet des hommes saints. Mais si ce que tu dis est vrai, ce cheikh n'est pas un si petit bassin pour que si peu de boue puisse le salir. C'est plutôt un océan. » Oui, reprit l'autre, mais moi, je l'ai vu dans un état peu convenable. Il ne prie pas et a un comportement indigne d'un cheikh. Si tu ne me crois pas, viens avec moi ce soir et tu verras. Son occupation, c'est d'être hypocrite le jour et de pécher la nuit. La nuit venue, ils se retrouvèrent sous la fenêtre du cheikh et le virent une bouteille à la main. L'homme cria alors « Ô cheikh, la vérité se fait jour. Et toi qui nous disais que le diable mettait ses sabots dans la coupe de vin ?» Le cheikh répondit « Ma coupe est si remplie que rien ne peut y pénétrer. » L'homme constata alors que la bouteille était pleine de miel et il fut pris de honte. Le cheikh lui dit « Avant d'avoir des regrets, va me chercher du vin. Je suis malade et j'en ai besoin. » Dans pareil cas, les choses ordinairement interdites deviennent licites. L'homme se rendit à la taverne, mais dans chaque tonneau, il ne trouva que du miel. Aucune trace de vin. Il demanda au tavernier où était le vin. Quand ils eurent constaté cette étrange métamorphose, tous les buveurs de la taverne se mirent à pleurer et se rendirent auprès du cheikh. Ô maître, tu es venu une seule fois dans notre taverne et tout notre vin s'est transformé en miel. Ce monde est plein de nourriture illicite, mais le fidèle ne doit pas y toucher. La chaudière de ce monde. Les désirs de ce monde sont comme une chaudière et les craintes d'ici-bas sont comme un hammam. Les impieux vivent au-dessus de la chaudière dans le dénuement et dans la joie. Les riches sont ceux qui apportent tes excréments pour nourrir le feu de la chaudière afin que le hammam reste bien chaud. Dieu leur a donné l'avidité. Mais toi, abandonne la chaudière et rentre dans le hammam. On reconnaît ceux du hammam à leur visage qui est pur. Mais la poussière, la fumée et la saleté sont les signes de ceux qui préfèrent la chaudière. Si tu n'y vois pas assez bien pour les reconnaître à leur visage, reconnais-les à l'odeur. Ceux qui travaillent à la chaudière se disent « Aujourd'hui, j'ai apporté 20 sacs de bouse de vache pour alimenter la chaudière. » Ces excréments alimentent un feu destiné à l'homme pur, et l'or est comme ces excréments. Celui qui passe sa vie dans la chaudière ne connaît rien à l'odeur du musc. Et s'il la sent, par hasard, il en devient malade. Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.